Chapitre 37.
Nous avons deux cerveaux superposés. Celui incapable de s'exprimer autrement que par giclées d'adrénaline, et l'autre, capable de comprendre les mathématiques, les langues, l'origine de l'univers. Le monde civilisé est là pour étouffer l'un et mettre en lumière l'autre.
Note personnelle de Jonathan Touvier, 1993. Farid soufflait d'une respiration vive, bruissante. Sans plus de force, il hoche le menton dans ma direction. « Je suis désolé, Jonathan, mais il y a un tas de choses qui vont pas te plaire. » Ma gorge se serre. « Vas-y, » je lui dis, « toute la vérité. » Farid repose sa nuque fatiguée et fixe le plafond. Ça a commencé il y a 5 ans. À 14 ans, j'allais plus beaucoup à l'école, j'y arrivais pas. Je passais beaucoup de temps dans les mauvais quartiers de Lille, Lille Sud surtout. Puis je traînais aussi du côté de Roubaix, Tourcoing, dans les sales endroits avec des sales types. Ça a été le début avec la drogue, les mauvaises fréquentations, les vols, scooters, autoradio, portefeuille. Son monologue est entrecoupé de tout, de claquements de dents, de pleurs. Parfois je le sens partir, le silence s'étire et il revient dans ses explications, à demi-conscient. J'ai été embarqué dans des mauvais coups, c'était comme une spirale dont j'arrivais pas à m'extraire. Avec 2 autres connaissances, des adultes, on s'est mis à cambrioler dans les maisons. On piquait tout ce qu'on pouvait revendre. Des téléviseurs, micro-ondes, réfrigérateurs, matériel de jardin ou de bricolage, même des tondeuses. C'était facile, ça marchait bien. Un jour, un de mes potes me branche sur un coup d'enfer. Un type qu'il rencontre depuis quelques semaines leur propose un deal simple, pour un beau paquet de fric. Un deal sur Annecy. Il me regarde les yeux pleins de larmes. Je crois que je vais vomir. Ça m'a fait tilt quand tu m'as parlé de ce cambriolage. Je me suis senti comme abattu, perdu. T'avais raison, c'est moi qui suis venu chez toi il y a 4 ans. Le type, il nous avait juste demandé de tabasser le chien. Il aspire bruyamment la morve coulant de son nez. Ça n'avait rien de personnel, c'était juste un contrat, tu comprends. Ton chien, on savait qu'il était pas méchant, il aboyait même pas. Le type, il avait tout expliqué à mon pote. On devait rien voler, juste frapper. Une fois à l'intérieur, on a cogné. Une fois d'abord, ça suffisait, il était dans les vapes. Mais le type, il avait bien dit qu'il fallait la mocher. Alors avec les 2 autres, on s'est acharné dessus, on l'a tabassé à mort. On croyait que t'étais pas là, il y avait pas de voiture, pas de lumière, rien. Mais toi, t'étais là, hein. T'es resté en haut dans ta chambre. Si t'étais descendu, on se serait tiré tout de suite. Mais là, notre violence, elle avait plus de limite. Il regarde Michel. Il y avait plus de règles. Je roule brutalement de l'autre côté, tous au point de m'étouffer. J'ai serré contre moi le bourreau de mon POC. Je l'ai aimé, ce môme. Je croyais en lui, en sa loyauté. Seigneur, jusqu'où va-t-on me briser? Vidé de mes forces, de toute envie de vivre, je reprends ma position latérale dans leur direction. Il y a 3 ans, je me suis fait prendre en volant un scooter. J'avais à peine 17 ans. Ils ont trouvé de la drogue aussi chez moi. Par chance, il n'y a pas eu de rapprochement avec mes coups d'avant, les vols et les cambriolages. Alors j'étais placé dans un centre éducatif, j'en ai chié pendant 2 ans, je te jure. Mes parents, ils m'ont jamais pardonné, je les ai pratiquement plus revus. J'ai pas de frère. T'as raison, Jonathan, cette tronçonneuse dans la fourgonnette de la photo, elle a un rapport avec notre présence ici.
Dis-nous la vérité!
Il tousse encore. Qu'il crève, je le déteste. Michel s'accroupit. Il rassemble des billets en un tas et y met le feu. Une ample flamme s'élève dans l'obscurité et commence à crépiter.
De la chaleur, bon Dieu. De la bonne chaleur sur mon visage.
Farid garde un temps les lèvres pincées. Ici, avec vous, j'ai toujours menti. J'allais de foyer en foyer, mes parents voulaient plus de moi. Tout ce que je voulais, c'était un job. Je voulais être normal, mener une vie comme n'importe qui. Et puis, il y a environ 2 mois, un type est venu me voir. Il attendait devant le foyer où je traînais. Je l'avais jamais vu. Grand, chauve, bien sapé, avec des pompes de marque. Il portait des gants en cuir, un gros blouson, une casquette et des lunettes de soleil. Un peu comme ces stars américaines. Michel entretient le feu le plus cher de tous les temps.
« C'est le gars qui s'est suicidé ?» il demande. « Notre cadavre de la caverne ?»«
J'en sais rien. Même carrure, ils étaient tous les deux chauves, c'est possible. »
Il y a que le visage, je sais pas. Le gars, il a presque toujours porté ses lunettes et sa casquette.
Michel soupire. Ses poings pulsent dangereusement.
Évidemment. Le visage. Et tu sais combien il y a de chauves dans ce pays?
Il a sûrement ôté ses lunettes à un moment, je dis. De quelle couleur étaient ses yeux? Je demande.
Marron, je crois. Des yeux profonds, froids. Ce gars bien sapé, gants en cuir et tout, il me propose un job comme ça de but en blanc. Un travail simple qui pourra rapporter gros, il dit. Juste du matériel à déplacer.
Il me donne une liasse. 1 000 euros d'emblée, tout de suite. J'ai demandé si c'était... légal.
Oui, légal. Il m'a garanti qu'il n'y avait aucun risque et qu'il y avait 100 fois plus à la clé.
100 fois plus, tu te rends compte? 100 000 euros. J'y croyais pas. Je me doutais bien qu'il y avait anguille sous roche. Ces trucs-là, ça arrive jamais dans la réalité.
Ses yeux se perdent dans le feu où brûlent des années de salaire. Moi, je voulais plus mettre les pieds là-dedans. Alors je lui ai rendu son fric et je suis rentré dans le foyer. Le problème, c'est qu'il avait glissé un numéro de téléphone dans ma poche avec les 1 000 euros. Je sais pas comment il a fait. Puis sur la carte, c'était écrit « Le chien à Annecy ». C'était donc lui, il y a 4 ans. Le même type, de retour. Quand j'ai rappelé une semaine plus tard, je lui ai demandé « Mais pourquoi moi et pas un autre ?» Et il a répondu « Pourquoi un autre ?» Pourquoi un autre, c'était pas une réponse, ça.
Il s'évade, frôle l'inconscience. Michel le rappelle à l'ordre en posant son pied sur le torse enchaîné et en appuyant. Farid hurle.
Continue.
Il relâche la pression quand le jeune reprend avec difficulté ses explications. C'est comme si un robinet s'ouvrait dans son cerveau, un robinet qui débite toute la vérité. Sa voix n'est plus qu'un filet sonore.
Tout ça, ça m'a taraudé, j'en dormais plus. 100 000 euros pour moi qui galérais. Puis le type, je le savais réglo, avec le chien, il nous avait déjà bien payé, alors je l'ai rappelé une deuxième fois pour lui dire que j'acceptais.
Il m'a demandé de descendre sur Nice pour le 15 février en m'expliquant que je devrais rester 10 jours sur place parce qu'avec le matériel, il allait falloir marcher pas mal. Je me suis dit, si ça craignait vraiment, j'aurais juste à me tirer. J'ai pris le TGV, on s'est revus donc. Mais là-bas, à Nice, il était plus fringué pareil. Il était en tenue de montagnard comme nous ici. Pantalon épais, drôle de veste, des moufles aux paluches. Vachement louche. Et puis sa bagnole, c'était pas ce qu'on appelle la classe, une vieille fourgonnette des années 80, celle que vous avez vue sur la photo. Bon, je voulais pas faire demi-tour. Là, il m'a emmené, j'ignore au juste où. Quelque part dans une forêt au bord de la montagne. J'ai jamais été très doué en géographie.
J'emmagasine un maximum d'informations. Combien de kilomètres depuis Nice?
Il met du temps à répondre comme s'il ne comprenait pas la question.
J'en sais rien. On a roulé environ 1 heure.
1 heure. L'arrière-pays niçois ou peut-être déjà la frontière franco-italienne.
Le type, on pouvait pas dire qu'il était bavard. D'ailleurs, il a jamais beaucoup parlé, juste quelques mots par-ci par-là. Là, on a débarqué dans un vieux chalet totalement isolé dans les bois. Même pas de réseau pour mon téléphone portable, pas de route ni de voisin, rien. La misère. Sa piole a ressemblé à un abri de trappeur ou de bûcheron, j'en sais trop rien. Pas de chauffage, on se les gelait. Le type, il m'a fourré 10 000 euros dans les pattes comme ça, en liquide. J'hallucinais. Dans le chalet, il m'a montré le matériel à transporter, c'était empilé dans un coin. Des outils, du matos de camping, des bouteilles de gaz. Cette lampe avec la bouteille de gaz. Enfin, en gros, tout ce qu'il y a ici.
Il reprend son souffle.
Je posais à peine ma valise qu'on se mettait au travail. Il m'a filé un perforateur pneumatique entre les mains. Il a pris un gros sac à dos, déjà plein, et on s'est mis en route. On a tout entassé dans le coffre, on a fait une partie en fourgonnette, et on a fini à pied. Un bout de forêt, puis on a marché sur des grandes montées jusqu'à arriver à un endroit qui m'a fait penser à la surface de la Lune. Il faisait un froid horrible, le vent arrêtait pas de souffler, il y avait que de la roche partout, et on voyait des montagnes couvertes de neige au loin. Jamais, jamais on a croisé quelqu'un. C'était trop mort, trop malsain comme endroit. Comme la fin du monde.
Il se racle la gorge et éternue. C'est environ à 20 minutes de marche de la fourgonnette que la descente vers ici a commencé.
C'était horrible. Une toute petite fente dans le sol sous un gros rocher qu'il a déplacé, au milieu de nulle part. Juste de quoi se faufiler. Une fois dans le trou, la pente était douce. On tenait presque debout. C'était une descente comme sur un toboggan.
Comme ce qu'il y a derrière les éboulements de la caverne, tu veux dire ?
Ouais.
Il me regarde.
Nous ne sommes jamais descendus par la cheminée. Je me souviens d'une galerie. C'est par où a creusé Michel qu'on est arrivé. Moi, je voulais lui poser toutes les questions du monde, mais il m'a juste dit « Pas de questions si tu veux le fric ». Je comprenais rien à ce que je faisais. La descente, elle a duré quoi ? Une demi-heure ? C'est ici même qu'il m'a demandé de tout déposer avant qu'on remonte. Au départ, je comprenais pas pourquoi il avait besoin de moi, ces trucs qui pouvaient les porter seuls. J'ai supposé qu'il voulait éviter de faire des dizaines et des dizaines d'allers-retours. Que quatre bras, c'était toujours mieux que deux. Quand on est rentré au chalet, c'était presque le soir. J'étais mort. Exténué. Il m'a fait dormir dans une pièce de la cabane. Lui, s'est couché à côté. On dormait avec nos fringues, nos bonnets, nos gants tellement écaillés. On s'est pas parlé. Le lendemain matin, très tôt, on s'est remis en route. Cette fois, dans le coffre, je devais porter une tronçonneuse. Lui, il avait encore un gros sac, et je connaissais toujours pas son contenu. Je voulais pas le savoir, je m'en fichais. Faire le job, prendre le pognon et m'en aller. À bien y réfléchir, il devait y avoir les chaînes, le masque en fer. Il secoue légèrement la tête et crache sur le côté. De la bile, du sang. Le lendemain, c'était repos, il m'a laissé seul et il m'a dit qu'il allait revenir dans 2 jours et qu'il y aura encore du travail. J'avais un lit, un réchaud et des conserves pour me faire de la bouffe. Même une petite radio. Je sais pas lire, mais pour les billets, les zéros, c'est pas pareil. Alors j'ai passé mon temps à compter et recompter les 10 000 euros. J'ai eu froid, mais j'étais bien, vous comprenez. Qu'est-ce que je faisais de mal? J'aidais un type un peu barge à amener des objets sous terre. On était au milieu de nulle part. Il y avait rien de bizarre là-dedans. Michel n'arrive plus à se contenir. Il brandit soudain la pierre tranchante prêt à l'abattre sur le visage de Farid. Rien de bizarre?
Farid détourne la tête et ferme les yeux. Le coup ne part pas.
T'as pu voir le masque de fer?
Demande Michel.
T'as remarqué des explosifs ou des trucs dans le genre au chalet?
Non, non, le masque, les chaînes, j'étais pas au courant. J'ai commencé à me poser des questions au quatrième jour quand il a ouvert le coffre de sa fourgonnette et que dedans il y avait une espèce de gros colis empaqueté dans un drap et scotché de tous les côtés. Ce qui est sous la couverture de la photo. Ce colis, on l'a porté à deux et... Il se tait et chiale à nouveau.
C'était un corps, c'est ça?
Je crois pas. Il avait la forme d'un corps, mais il était plutôt léger et dans une position curieuse comme recroquevillé. Non, non, ça pouvait pas être un corps. Mais c'était vraiment malsain. J'ai pas cherché à en savoir davantage, d'accord? Ce que je vivais n'avait aucun sens. Je marchais avec un inconnu dans les montagnes, on descendait dans un trou, on déposait des choses, et moi j'allais me retrouver plein aux as. C'était tout.
C'était quelle date?
Le 19 février. Je réfléchis. Quelque chose cloche.
Le 19?
J'ai été enlevé le 25. Et toi, Michel?
Pareil.
C'est que... Non, non, réplique Farid. Je sais à quoi vous pensez, au cadavre de la galerie.
C'est pas lui que j'ai descendu le 19. D'accord?
Parce que d'une part, il aurait été bien plus lourd. Et d'autre part, notre cadavre, il était vraiment tout frais quand Michel l'a découvert. Il venait d'être tué. D'être la veille. Non, ce machin recroquevillé et empaqueté sous la couverture, c'était autre chose.
Il grelotta.
Laissez-moi finir mon histoire, faut aller au bout maintenant. On a descendu le colis, et là, au fond, je sais pas, j'ai commencé à paniquer, à penser à plein de trucs bizarres. Alors il m'a montré un sac poubelle rempli de pognon. Mon pognon. 90 000 euros.
Vous savez ce que ça fait, 90 000 euros entre les mains?
Un feu de 5 minutes.
Continue.
Il a abandonné le sac poubelle là et il m'a dit que dans quelques jours ce fric y serait à moi. On a aussi laissé le colis empaqueté tel quel. On est remonté. Je me suis retourné vers le sac poubelle et je me suis mis à rêver.
100 000 euros!
Il fixe les cendres incandescentes. L'homme m'a laissé à nouveau 5 jours seul au chalet. J'ai franchement hésité à me tirer. Courir dans les bois avec mes 10 000 euros vers nulle part et disparaître.
Mais tu l'as pas fait.
Il pleure. Michel se penche vers lui, lui attrape les cheveux.
On s'en fiche de tes regrets et de tes larmes. C'est trop tard. La suite.
C'est le fameux 25 que tout s'est passé. Il m'a dit que c'était le dernier jour, que le pognon ce soir il serait à moi. Vers les 5 heures du mat, on a pris la fourgonnette, on est remonté dans la forêt. On s'est garé comme d'habitude. Et là, il a ouvert le coffre. Cette fois, il y avait 3 gros paquets alignés comme des sardines et saucissonnés dans des couvertures. Le temps était ignoble.
Le vent glacial, il faisait noir. J'avais l'impression de geler sur place. Le dernier jour, il avait dit « La dernière mission ». Alors je me suis emparé de la première momie et l'ai tiré à moi. Lui, il m'a regardé et il m'a souri. Vite, je lui ai dit qu'on en finisse. Je savais ce qu'il y avait là-dedans. Des corps dont il voulait se débarrasser. J'en avais la certitude. J'étais persuadé qu'ils étaient morts, que, pour une raison quelconque, ils voulaient les enterrer dans ce trou là où personne ne viendrait jamais les chercher. On a marché, on est descendu comme les autres fois. Lui, il portait carrément un corps sur ses épaules, et en plus, il m'aidait. Il y a que... Pour toi, Michel, qu'on s'y est mis à deux, t'étais trop lourd pour un seul homme. C'est sûrement pour ça qu'il m'a embauché au final, pour descendre, toi. À un moment, j'ai cogné ce qui ressemblait à la tête d'un corps contre la roche, et il m'a dit de faire gaffe. J'ai cru qu'il allait me tuer. Pourquoi faire gaffe à des morts? Je me suis vite dit qu'il voulait les garder intacts. Que ce type, il avait une case en moins, et que plus vite je serais parti, mieux ce serait. Sa gorge lâche un long sifflement. Ses dents claquent désormais sans discontinuer. Dans le lot, il y avait ton chien, Jonathan. Il n'était pas trop lourd. Et il avait la forme d'un chien. Il m'a laissé le descendre tout seul. Sous la chaîne, je ne peux même pas serrer les poings. Mes ongles s'enfoncent dans le tissu de mon pantalon. Je regarde Michel, il va et vient dangereusement, la pierre dans la main, j'ai peur pour Farid. C'était affreux, j'ai cru que j'allais mourir de fatigue, j'en pouvais plus. Quand on a fini dans le gouffre, l'homme, il a allumé une lumière et c'est là que j'ai vu la tente. Une vraie tente montée sous terre. Alors en une fraction de seconde, j'ai compris. J'ai compris que ses corps, ils devaient être vivants et que ce type, c'était un malade. Un malade de la pire espèce. Il m'a souri une dernière fois, puis il a ôté les couvertures. Vous étiez vivant. Endormi, mais vivant. T'avais déjà le masque de fer, Michel. Alors le type m'a jeté le sac poubelle à la figure. Et là, il m'a braqué avec le flingue et il m'a dit « Il est vraiment à toi ce pognon, chose promise, chose due. Mais je doute fort qu'ici tu puisses t'en servir. Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser repartir comme ça ?» Ensuite, il a tout balancé dans le puits. Les outils, la plupart du matériel. Vous connaissez la suite. Il m'a drogué. Comme vous, je me suis réveillé sur ma corniche en hauteur avec le sac d'argent et cette lettre bizarre de Jonathan à mes côtés. J'ai jamais pu la lire, cette lettre. Je sais pas pourquoi il me l'a laissée. Mais c'est bien celle-là que ton chien a trouvée. Quand j'ai compris que vous risquiez tôt ou tard de monter sur ma petite corniche, je me suis décidé à tout jeter dans le puits en me disant qu'au pire, je pourrais tout récupérer plus tard. J'ai dû la laisser tomber derrière un rocher. Ses lèvres tremblent fort à présent. Je les vois violettes ou d'un rose très foncé. Voilà, je vous ai tout dit. Ce type, j'ai jamais su qui il était ou pourquoi il a fait ça. Ce que je sais, par contre, c'est que je devais rien vous dire. Parce que c'est moi qui vous ai descendu ici. Vous m'auriez tué.
Ça oui, grogne Michel.
Il hoche le menton dans ma direction. Au fil de notre enfermement, j'ai compris que tout avait un rapport avec toi, Jonathan. C'est pas anodin s'il est venu me chercher, moi. Il savait pour les cambriolages. Il savait que toi et moi, on était liés en quelque sorte. Tout comme t'es lié à Michel avec la leucémie. C'est toi qui veux briser jusqu'à l'os. Alors il nous a utilisés, moi et Michel. On est que les objets de sa vengeance.
Je peine à respirer. Un goût d'acide me brûle le fond de la gorge et la langue. Moi, le point culminant de cette vengeance. Ses efforts, ce matériel, cette immense préparation étalée sur plusieurs années. Et puis, s'arranger pour que tout coïncide juste avec la grève de Françoise. Pour qu'elle et moi en souffrent plus encore. Moi, Françoise, Claire, avec entre nous trois, un homme mort voilà 19 ans. Un horrible nom tourne dans ma tête sans cesse. Parce que c'est logique. Max Beck. Comment serait-ce possible? Comment aurait-il pu seulement survivre à sa chute? Et ensuite redescendre de la montagne sans mourir de froid et de soif? Je l'ai vu tomber dans une crevasse à 5000 mètres d'altitude, bon sang. Et pourtant, nous aussi on est encore en vie. Après plus d'une semaine au fond d'un gouffre. La volonté n'a pas de limite. Pas loin de céder à la panique, j'essaie de me rappeler les traits du cadavre, la physionomie générale. Crâne chauve. Max avait les cheveux longs. Les yeux marrons d'après Farid et Max avait les yeux bleus. Des lentilles. Tout est flou, si flou. Et tellement loin. 19 ans en arrière. 19 ans à m'efforcer d'oublier. 19 ans où Max a pu préparer une longue, une interminable vengeance. Farid, quand tu nous as ramené ici, Michel, Poc et moi, tu as parlé d'un premier paquet. Celui que tu as descendu le 19, qui était plus léger. Est-ce que ça pourrait être une fille de 50 kilos?
Non, je crois pas. Dans les outils qu'on a descendus, il y avait aussi une tronçonneuse qu'il a jetée dans le puits, le 25, en me braquant. Ces jours où je suis resté au chalet, lui, il est venu travailler ici. Monter la tente, enfoncer les pieux, tout préparer. La tronçonneuse, je crois que... elle a servi à couper dans la glace. Vous avez pas remarqué, mais ça se voit dans le glacier, quand on regarde bien. Parmi toutes les fissures, il y en a de plus régulières, artificielles. Des lignes de coupe faites avec une lame. Il prend son inspiration et lâche dans un souffle fatigué. Elles sont juste autour de la tache sombre